Et on va lire un simple verset qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 16. Et on va essayer de réfléchir dessus. Proverbes, chapitre 16, et verset 3. Un texte qu'on trouve très souvent surligné dans les Bibles. Il y a beaucoup de textes surlignés d'ailleurs dans ce chapitre 16, souvent. Proverbes 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Je le relis. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Le texte ici nous parle, on va voir déjà les deux verbes. Les deux verbes, vous savez, c'est important les verbes. C'est ce qui nous dit de quoi il est question. Le premier verbe, c'est recommander. Et je suis allé voir l'origine de ce mot, et curieusement, l'origine, le mot est plus souvent employé dans le sens de rouler, par exemple faire rouler une pierre, se jeter, se précipiter dans un courant d'eau par exemple. Et ici, ce texte nous parle justement du fait qu'il nous est important, si on regarde, il y a plusieurs choses qui peuvent... Quand je voyais justement le sens faire rouler la pierre, j'imaginais Jésus qui disait, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, « Ôtez la pierre qui est à l'entrée du tombeau. » Et la pierre, on l'a fait rouler. Et puis, finalement, cette pierre ôtée, le mort peut sortir. Même exemple, quand le Seigneur est dans son tombeau à lui, la pierre a été roulée, elle a été enlevée. Et le Seigneur a pu sortir du tombeau. Bien sûr, même avec la pierre devant, il aurait pu. Hein. Mais c'est symbolique. Ça nous montre l'importance. Ça nous montre l'importance de doter ce qui empêche à Dieu d'intervenir, d'agir dans nos vies. Moi, ce simple verbe, recommander, déjà, sur ce sens-là, de faire rouler, de doter la pierre, eh bien, ça me pose question. Est-ce que dans ma vie, il peut y avoir une pierre, une grosse pierre, qui empêche le Seigneur d'agir dans ma vie et qui empêche finalement mes projets de se réaliser? Est-ce que finalement je suis en train de me tuer à faire quelque chose, entre guillemets, pour Dieu, mais sans réfléchir? Dans mon cœur, il y a des pierres, il y a des choses qui sont là et qui entravent même l'approbation de Dieu sur ma vie, qui entrave le fait que le Seigneur ne peut pas être dans mon projet, parce qu'il y a des pierres, il y a des cailloux qui sont là qu'il faut absolument enlever. Quelqu'un qui, devant Dieu, a une allure extérieure de vouloir le servir en tout point et qui, à l'intérieur, est pétri d'orgueil ou d'hypocrisie, Dieu ne peut pas l'approuver. Il suffit simplement de voir comment Jésus parle aux pharisiens qui étaient pétris d'hypocrisie. Et pourtant, Jésus, il dit à ces pharisiens, « Vous qui donnez la dîme de la menthe et du cumin. » C'était la plus petite dîme. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les pharisiens, quand on les regardait d'un point de vue extérieur, il n'y avait rien à dire. Ils avaient un témoignage extérieur irréprochable. Il n'y avait rien à dire. Ils ne faisaient jamais d'erreur d'un point de vue extérieur, au point que peut-être certains devaient se dire oh, « Moi, j'arriverai jamais à être comme eux. C'est pas possible. J'y arriverai jamais. » Et pourtant, d'un point de vue extérieur, ils paraissaient bien. Mais Jésus leur fait justement ce reproche en disant « Vous, vous vous appliquez à nettoyer l'extérieur du plat, mais à l'intérieur, c'est tout moisi. » Qu'est-ce qu'il disait aux pharisiens ? que si d'un point de vue du regard extérieur, tout paraît bien, à l'intérieur, dans le cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a des choses qui font que finalement, Jésus s'est opposé à eux. Et il leur a parlé même sévèrement. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur, les pierres qui étaient là, eh bien, elles empêchent, même je peux parler au présent, elles empêchent le Seigneur de donner son approbation sur notre vie. Est-ce qu'il y a des pierres à rouler dans notre cœur ? Est-ce qu'il y a des choses à enlever ? C'est la première question, juste sur ce premier verbe. Une deuxième question, toujours sur ce premier verbe. J'ai bien aimé le sens de se jeter, notamment dans un courant. Qu'est-ce qui se passe quand on veut aller d'une direction à une autre, par voie fluviale, surtout s'il y a du courant, et qu'on veut aller dans le sens du courant? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Mais rien. On va dedans, on se laisse flotter, et le courant nous y emmène. Et ici, dans ce verbe, recommande-toi, recommande à l'Éternel tes œuvres. Il y a vraiment cette notion de se jeter dans un courant. Et c'est vrai que finalement, on peut s'approcher de Dieu avec assurance, on va le voir. Quand bien même il y a des pierres dans mon cœur, quand bien même il y a des pierres à rouler, on va le voir que le Seigneur lui-même a pris sur lui ces pierres. Il a pris notre fardeau qui est lourd à porter. Il a pris notre péché en mourant pour nous sur la croix du calvaire. Et c'est pour cette raison que nous pouvons nous approcher de Dieu et que nous pouvons nous recommander. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire quelque part, parce que demandez à quelqu'un qui ne sait pas nager de se jeter dans l'eau, vous verrez bien le résultat. Et il y a des peurs à surmonter, il y a cette appréhension, il y a le fait de savoir flotter, ce manque d'assurance, etc. Et quand on est là, on sait devant Dieu qu'on n'est pas propre, on n'est pas clean. Il y a quelque chose, il y a des pierres à enlever, il y a des choses qui déplaisent à Dieu, on le sait. Et malgré tout, le Seigneur, la Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Et ici, eh bien, ce texte nous dit quelque chose de très simple, c'est que même si il y a des pierres, Dieu, il nous aime et il nous tend la main. Dieu, il veut que nous puissions venir dans ses bras aussi, se jeter, se précipiter dans ses bras. Ça peut être ça aussi l'image. Recommande ton sort. C'est va dans ses bras. Ces bras qui sont grands ouverts. Et ils ont été tellement ouverts qu'à la croix, ils étaient étendus pour nous montrer à quel point il nous accueille, à quel point il nous aime. Il a pris sur lui notre malédiction, il a pris sur lui notre condamnation, il a pris sur lui nos péchés, ce qui nous permet de nous approcher de lui avec un cœur repentant et sincère. Ça, c'est vrai. Nous sommes appelés quand même. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Mais n'importe comment, celui qui vient à Dieu en reconnaissant sa faute, en reconnaissant son tort, en reconnaissant son péché, Dieu est prêt à le lui pardonner. Et en ce sens, on peut s'approcher de lui, on peut venir auprès de lui, et ensuite on va pouvoir voir que finalement, c'est un texte qui est valable pour l'obtention du pardon. On peut se précipiter dans ses bras. C'est ça, se recommander aussi. Seigneur, eh bien, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon, mais je viens à toi. Et s'il te plaît, Seigneur, viens me faire du bien. Mais dans les bras du Seigneur, il y a un bon réconfort à obtenir. Et ici, eh bien, c'est tout ça, ce mot, recommander à l'Éternel. Finalement, on recommande à l'Éternel nos œuvres, mais ce que nous faisons en dit long sur ce que nous sommes. Un texte de la parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. à combien plus forte raison ce que mes mains font, ce que je fais en dit long. Alors des fois, comme je disais tout à l'heure, ça peut être trompeur, parce que dans le cœur, il peut y avoir de l'hypocrisie, il peut y avoir du mensonge, et mes mains peuvent montrer des choses qui ne sont pas vraies. Mais si mon cœur est faux, finalement, ma fausseté est tout aussi révélée par mes mains. Parce que le mensonge qu'il y a à l'intérieur se reproduit à l'extérieur parce que je fais des choses qui sont fausses. Je fais croire aux gens que je suis quelqu'un qui aime le Seigneur alors que c'est faux. Mais si, à l'inverse, il y a dans mon cœur de la reconnaissance parce que j'ai été pardonné, si dans mon cœur il y a justement cette expérience qui fait que je peux dire « Oui, le Seigneur est bon. » Et il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais abandonné. Quand j'ai eu besoin de lui, à chaque fois que j'ai crié à lui, il a toujours répondu. Ça, c'est des expériences vécues qui sont ensuite dans notre cœur. Mais si elles y sont dans notre cœur, eh bien finalement, ce que nous allons dire, ça va être des paroles de louange. Mais ça va être aussi des œuvres d'action de grâce. Quelque part, on va, quand on se sent redevable de quelqu'un, ben, on a envie de faire quelque chose, de faire plaisir à celui qui est ainsi bon envers nous. Le Seigneur qui a tant fait pour nous, eh bien, on recommande à Dieu ce que nous faisons. On se recommande nous-mêmes, parce que finalement, en allant vers Dieu, en lui demandant pardon pour nos péchés, En comptant sur sa grâce, c'est comme si aussi on allait se jeter dans ses bras. Et finalement, ce qu'on fait ensuite, c'est du même acabit. C'est que finalement, ce qu'on s'apprête à faire, ça vient de notre cœur, de ce que le Seigneur a mis aussi dans notre cœur. Et finalement, eh bien, c'est par le Seigneur que nous agissons, c'est par le Seigneur que nous allons parler. C'est lui qui va faire que nous allons être celui que nous sommes, à savoir des enfants de Dieu, celui qui a donné son cœur à Dieu, celui qui a cru dans le sens de ce que le Seigneur a fait sur la croix du calvaire, il a le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et à ce titre bien précis, il est quelqu'un de particulier, parce qu'il est fils de Dieu. C'est un titre quand même qui est intéressant, qui nous montre beaucoup de choses. Nous sommes fils de Dieu. Autrement dit, quand on parle à Dieu, on peut l'appeler Père Céleste. On peut l'appeler Père Céleste parce que nous sommes ses enfants. Et à ce titre, eh bien, comme des parents s'occupent de leurs enfants, on a une assurance que le Seigneur, il s'occupe de nous. Alors, de la même manière que des parents peuvent être pour leurs enfants un refuge. Par exemple, un enfant, quand il est triste, il va aller voir son papa, sa maman, et il va lui expliquer ce qui ne va pas. Il va aller dans ses bras, il va aller réclamer un câlin, un bisou, ce que vous voulez. Et les bras de papa, les bras de maman, bah, ils vont réconforter l'enfant. Ils vont lui faire du bien et ça va repartir. C'est ça aussi, se recommander à Dieu. Quand je fais partie de la famille de Dieu, le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, le jour où il est devenu pas un Dieu, mais le jour où il est devenu mon Seigneur, mon Maître, mon Père Céleste, parce que je suis enfant de Dieu le jour où j'ai reçu par la foi ce que le Seigneur a fait, le jour où je me suis repenti de mes péchés, eh bien je trouve en Dieu un libre accès. Je peux venir à lui, me jeter dans ses bras. Je peux venir à lui, eh bien lui dire tout ce qu'il y a sur mon cœur. Je peux recommander mon sort à Dieu, m'abandonner à lui, lui dire même tout ce qui se passe par ma tête. Quand on lit les psaumes, des fois, on voit que le psalmiste n'est pas toujours bien. Il dit des choses, des fois, il n'y a qu'à lire ce qu'il écrit pour qu'on se rende compte qu'il n'est pas dans une phase forcément joyeuse. Quand il demande d'anéantir ses ennemis, forcément, on va voir que le psalmiste, eh bien, il vit dans un moment qui n'est pas facile. Parce que qu'a dit le Seigneur? Les ennemis, il faut leur souhaiter du mal ou il faut leur souhaiter du bien? Jésus a dit qu'il nous faut aimer nos ennemis. Donc si dans les psaumes, des fois, on trouve certaines paroles où on voit justement ces paroles qui sont à l'égard des ennemis assez dures, on peut imaginer que le psalmiste, il n'allait pas forcément bien. Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'à Dieu, on peut tout dire. Même des choses des choses qu'on ne pourrait pas dire à des personnes. À Dieu, on peut tout dire. Il est une oreille attentive. Il nous écoute et il sait interpréter nos paroles, même quand on y dit mal. Même quand on s'adresse d'une mauvaise manière à Dieu, quand on se jette dans ses bras, qu'on se recommande, et quand on fait des choses dans notre vie, on recommande à Dieu notre vie, il y a ce vrai cœur à cœur avec Dieu. Eh bien, le Seigneur, derrière, il y répond. C'est tout ça, se recommander. Recommander mes œuvres à l'Éternel. Le deuxième verbe, il parle de réussir. Tes projets réussiront. Les projets, c'est tout ce que je prévois de faire, certes. Mais quand je suis enfant de Dieu, il est normal, je dirais même logique, on peut avoir des projets qui sont personnels. Hein. Mais quand on est enfant de Dieu, on est au bénéfice aussi de l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit, et finalement, il y a comme un mélange. Mes projets peuvent devenir les projets de Dieu, et plaise à Dieu que ces projets deviennent les miens. Quand on en arrive là, il se peut des fois qu'un projet personnel, finalement, ce soit un projet de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a des idées, c'est des projets purement personnels, ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a des fois, on ne s'en rend pas compte, mais certains désirs qu'on va avoir, c'est Dieu qui nous les met. Et ça, pour le chrétien qui a une vraie vie spirituelle, une vie authentique, eh bien, il va se rendre compte que des fois, même ses désirs, c'est Dieu qui les lui inspire. Par exemple, on voit tout à fait l'exemple dans le livre de la Genèse, quand Dieu a en projet, donc c'est un projet de Dieu, il a en projet de créer la femme. Et que fait Dieu à ce moment-là ? Il dit à Adam d'étudier les animaux. Alors ça paraît bizarre comme ça. Sachant que pour donner un nom chez les Juifs, quand on donne un nom, ça veut dire qu'on a passé du temps à comprendre, à étudier, à savoir. Et quand Adam va donner un nom à un animal, ça veut dire qu'il aura passé du temps à l'étudier, à le regarder, à l'observer, etc. Donc combien d'animaux aura-t-il passé en revue avant de se rendre compte que les animaux, ils sont plusieurs et que lui, il est tout seul? Dieu avait un projet de lui apporter une aide complémentaire. Et pour cela, eh bien, il va demander à l'homme quelque chose. Et alors qu'il est au service de Dieu, il est dans l'obéissance, un désir dans le cœur de l'homme va naître. Mais justement, c'était la volonté de Dieu que ce désir naisse dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il a amené ainsi à nommer les animaux. Il voulait que l'homme réalise qu'il avait besoin de quelqu'un. Et Dieu, il n'avait pas d'autre attente qu'un jour, l'homme dans son cœur soupire après le fait qu'il soit seul et émette cette prière à laquelle Dieu se donnerait un grand plaisir de répondre. C'était son projet. Donc quand on a une vraie communion avec Dieu, quand on a une vraie vie avec Dieu, ça peut arriver que même des projets personnels soient des projets de Dieu. Je le répète, tous nos projets personnels, ça dépend de notre vie avec Dieu. Ça dépend de notre vie de communion avec Dieu. Ça dépend à quel point nous aimons le Seigneur. Il y a bien des cas, malheureusement, où des projets personnels restent des projets qui ne sont pas de Dieu. Le plus important, ce n'est pas cela. Les plus importants, ce sont les projets, justement, que Dieu a formés, que moi, je vais m'approprier, au même titre que Adam, et on voit que ça se mélange quelque part. Si je reprends cet exemple de la Genèse, Dieu avait un projet, et il a demandé à Adam de faire quelque chose. C'est devenu le projet d'Adam. Adam a obéi à une parole de Dieu. Et alors que Adam obéit et il est dans le projet de Dieu, il fait ce que Dieu lui demande, eh bien Dieu intervient en sa faveur. Et c'est ici que non seulement il y a de la réussite parce que quant à la chose que Dieu lui a demandé, il a réussi. Et en plus, il a obtenu finalement ce que son cœur désirait. On a tout à gagner à vouloir rentrer dans les projets divins. Et dans le verbe « réussir », il y a plusieurs termes. Il y a plusieurs termes. Il y a plusieurs sens. Il y a le sens d'être établi. Si je suis dans les bras de Dieu, parce que je me recommande, parce que je vais dans ses bras, le jour où ça ne va pas, je me confie en lui, du coup je me retrouve près de lui. Je me retrouve fermement établi parce que je suis près de lui qui est un rocher. Je m'en vais dans les bras de celui qui est une tour, une forteresse. Donc forcément, la conséquence logique est que je me retrouve au bon endroit, je me retrouve en sécurité, parce que j'ai tout confié en celui en qui j'avais une pleine sécurité. J'ai tout confié en celui en qui je pouvais avoir pleinement confiance, parce que comme je le disais tout à l'heure, il répond toujours en son temps, mais il nous entoure de sa bienveillance. La notion de réussir, il y a une notion aussi même de restauration, être restauré. Là où justement j'ai compris que j'étais pécheur devant Dieu, là où j'ai compris que j'étais répréhensible parce qu'un jour je l'avais méprisé, je peux venir à lui. Et finalement ce projet qui est de venir à lui pour lui demander pardon, il ne peut que réussir. Parce que Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui a les yeux fixés sur le cœur qui est brisé et contrit. Il est particulièrement touché par ces cœurs-là. Et il n'a pas d'autre désir que de faire du bien à celui qui vient à lui, ce cœur brisé, contrit, repentant. Le Seigneur veut faire du bien. Et dans le verbe « réussir », il y a aussi cette notion d'être rétabli. Le Seigneur est celui qui veut nous rétablir, nous redonner peut-être une dignité perdue. Pour l'homme qui était dans le péché, qui avait perdu toute dignité, il va se retrouver élevé au rang de fils de Dieu. Aujourd'hui, ça ne se voit peut-être pas, mais un jour, croyez-moi, la différence, elle se verra bel et bien. Quand le Seigneur reviendra avec ceux qui lui appartiennent, les fils de Dieu, ceux qui auront choisi de leur vivant de vivre cette vie semblable à celle du Seigneur, ceux qui auront choisi de se confier en Dieu, ceux qui auront choisi d'aimer le Seigneur, eh bien, quand le Seigneur reviendra dans sa gloire, il y aura une vraie différence. Et ça, c'est sûr. Les fils de Dieu, ils seront bien différents de ceux du reste des hommes. Un jour, nous reviendrons régner avec lui. Nous régnerons sur des hommes et des femmes. Mais nous, nous serons des fils de Dieu. Nous serons revêtus d'un corps glorieux. Ici, on sera rétabli en dignité. Pour terminer ce message, j'aimerais juste prendre d'autres exemples où on a ce même conseil que de se recommander, de s'abandonner, de se jeter dans les bras, de se laisser porter par le courant de Dieu. C'est ça être au repos. Quand on se laisse porter par le courant, on ne fait aucun effort, on n'a pas besoin de nager, c'est le courant qui nous emmène. Et le chrétien qui s'appuie sur Dieu dans sa vie de tous les jours, il a une vie de repos, il s'abandonne vraiment. Par exemple, il va voir dans Matthieu 6 un enseignement sur les inquiétudes. Il va voir qu'il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, je nourris les oiseaux, je fais resplendir les fleurs, et c'est moi qui m'occupe. Chacun de vos cheveux sont tous comptés, ne vous inquiétez de rien. » Quand il dit ça, il parle à des personnes qui sont à Dieu. Il parle à ses enfants. Le jour où j'ai compris que si Dieu me dit de ne pas m'inquiéter, c'est qu'il ne faut pas m'inquiéter, eh bien, je vais être dans une position de repos. Parce que le jour où je m'appuie dessus, Ça veut dire que je reçois cette parole pas que dans la tête, mais dans le cœur. C'est comme si je m'asseyais sur une chaise. Je peux tourner autour en me disant j'aimerais bien m'asseoir, mais si je ne m'assois jamais, je ne serai jamais au repos. Tandis qu'à un moment donné, je me dis mais je vais m'asseoir. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un moment transitoire où il ne faudrait certainement pas que la chaise me soit ôtée au moment où je suis en train de m'asseoir, sinon je vais me faire très mal, parce que je perds justement la maîtrise de mon propre corps et je vais me faire mal en tombant par terre. Parce que je me suis abandonné. Et si la chaise est en place, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver assis sur une chaise qui supporte mon poids et je ne suis plus en état de fatigue. Je suis au repos. Et quand on considère les paroles qui sont écrites, les conseils que Dieu nous donne, c'est comme des chaises où il nous appelle à nous asseoir, tout simplement, à prendre appui sur ces paroles et à rejeter toute pensée. Si je reprends l'exemple des inquiétudes, c'est le diable qui va essayer de nous faire nous inquiéter. L'inquiétude, d'ailleurs, elle ne va pas nous mener bien loin. Alors, dans notre cœur, on peut dire, comme Jésus, quand il a été tenté, c'est une tentation quelque part, l'inquiétude. Qu'a fait Jésus quand il a été tenté? Il est écrit. Il a répondu, il est écrit. Alors, j'ai une pensée d'inquiétude? Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, je rejette. Seigneur, je ne veux pas écouter ces mauvaises pensées et je veux croire que tu vas intervenir quand tu l'auras décidé. Seigneur, c'est à toi que je me recommande. Et je sais que dans la situation dans laquelle je me trouve, au bon moment, tu interviendras. On pourrait juste lire quelques versets pour terminer. Psaume 55. J'ai choisi deux ou trois versets qui ont la même construction, qui ont un peu une pensée parallèle. Psaume 55, verset 23. On a un peu la même idée. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. C'est ce que je disais. On peut avoir ce point d'appui ferme et solide en Dieu. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Pourquoi ? La suite nous le dit. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Celui qui a mis sa vie en règle avec Dieu, eh bien, il est fermement établi sur un rocher solide et sûr. Psaume 37, verset 5. Encore, c'est un texte qui ressemble énormément. C'est le même mot qui est utilisé à l'origine. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui. Je dis au Seigneur ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Et c'est lui qui agira. C'est à lui d'agir, ce n'est pas à nous. Il y a des situations où on aimerait donner un coup de main au Seigneur. Mais bien souvent, on fait plus de dégâts qu'autre chose. C'est lui qui doit agir. C'est lui qui veut agir. Parce que ce sera bon pour nous. D'une part, on restera dans le repos. Et d'autre part, on va le glorifier parce qu'on n'aura plus que constater qu'il ne nous a pas oubliés, qu'il prend soin de tous ceux qui lui appartiennent. Psaume 22, verset 9. Ce verset va interroger un peu, mais le psaume 22, c'est un psaume prophétique. Le psaume 22, je pense qu'il a été écrit pour qu'on puisse comprendre ce qui pouvait passer par la tête du Seigneur au moment où il était sur la croix. Tout le psaume 22 peut s'appliquer à ce que le Seigneur avait dans son cœur au moment où il était sur la croix du calvaire. Psaume 22, verset 9. Ici, on peut lire le verset 8. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. » Qu'est-ce qu'ils disent, verset 9 ?« Remets ton sort à l'Éternel. » L'Éternel le libérera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Donc ce sont des gens qui se moquent et qui établissent cette vérité, mais qui n'ont pas compris finalement. Dans l'Ancien Testament, on le voit, mais regardez, Matthieu 27, verset 43. Regardez à quel point cette parole prophétique s'est réalisée alors qu'elle a été écrite tant d'années avant le moment où le Seigneur s'est retrouvé sur la croix du calvaire. Là encore, ce sont ceux qui vraiment... Il est question, verset 41, les principaux sacrificateurs, avec les scribes, et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Regardez le verset 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. La parole des ennemis était prophétisée. Les ennemis n'ont certainement pas dit ces choses en voulant réaliser et accomplir les prophéties qui prouvaient que le Seigneur était le Messie, bien sûr. Ils l'ont dit tout naturellement. Et les prophéties se sont accomplies. Ici, on a une parole où il est question de se recommander. Et d'ailleurs, le Seigneur, il était sur la croix, il s'est recommandé à Dieu. Parce que juste avant de mourir, il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il a dit ces choses, il s'est recommandé à Dieu. Est-ce que Dieu l'a sauvé? Il est ressuscité le troisième jour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il est bien ressuscité, sinon on ne serait pas là cet après-midi. Le Seigneur est mort pour nos péchés. Mais grâce à sa résurrection, le troisième jour, on peut obtenir le pardon de nos péchés. Parce qu'il est vivant, il entend nos prières, il est au ciel. Et alors que quelqu'un s'approche de Dieu et lui demande le pardon de ses péchés, il est là et il peut montrer ses mains et ses pieds percés pour dire « il peut venir parce que je suis mort pour lui, je suis mort pour elle ». Il peut s'approcher de moi, il peut se confier en moi, il peut venir à moi avec ce cœur repentant sincère, certes. Mais le Seigneur n'a pas d'autre désir que de faire du bien à celui qui s'approche de lui, à celui qui ne s'approche pas de Dieu. On pourrait reprendre ce verset de base, et je termine là-dessus. On était au Proverbe 16, 3. Ce sont des lois, en fait. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Tu seras fermement établi pour l'éternité. Autrement dit, celui qui ne recommande pas ses œuvres à l'Éternel, celui qui ne s'approche pas de Dieu, celui qui reste loin de lui, il restera loin de Dieu pour l'éternité. Et quand bien même il aurait pu avoir des projets, ce ne sera que des regrets, que des remords, qu'un échec amer, devant le fait que d'entre vie durant, on aura méprisé celui qui nous accueillait les bras ouverts. Je ne voudrais pas cet après-midi qu'on puisse repartir de ce lieu sans avoir bien saisi l'importance de nos propres choix. Nous sommes toujours devant des choix. Est-ce que je vais recommander à l'Éternel mon sort? Est-ce que je vais m'approcher de lui? Est-ce que j'ai compris que je pouvais m'approcher de lui? Mais que j'avais besoin de le faire avec un cœur repentant, est-ce que oui ou non je vais le faire? Ou est-ce que oui ou non je vais rester loin de Dieu? Si je reste loin de Dieu aujourd'hui, je prends un grand risque, c'est que mon cœur s'endurcisse et qu'il soit de plus en plus difficile de m'approcher de lui dans l'avenir. Notre vie ne nous appartient pas et Dieu, il regarde comment nous recevons sa parole. Il regarde quels sont nos choix. Il regarde comment nous réagissons devant les conseils qu'il nous donne. Est-ce qu'on les écoute ou est-ce qu'on les refuse? Le Seigneur, il est prêt à recevoir celui qui vient à lui. Ça, c'est clair. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions et vous trouverez du salut pour vos âmes. Le Seigneur, il veut nous faire du bien. Mais ça dépend de nos propres choix. À celui qui a compris qu'il pouvait venir à Dieu, eh bien qu'il le fasse. Vraiment, je prie pour qu'on puisse, cet après-midi, avoir tous compris cette réalité. On va se recueillir quelques instants, je vais demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, te disons merci pour ces bons conseils que nous trouvons dans ta parole. Oui, ta parole est riche. Ta parole est riche parce que nous réalisons, Seigneur, que sur quelques mots simplement, on arrive à découvrir tant de choses. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oui, je te prie pour que cet après-midi, nous puissions être de ceux qui vont vers toi. Nous puissions être de ceux qui se confient en toi, de ceux qui sont prêts à tout te dire. Les choses qui vont bien, les choses qui ne vont pas. Comme un enfant va voir ses parents pour lui dire ce qu'il a sur son cœur. Seigneur, je te prie pour que cet après-midi, on puisse vraiment réaliser l'importance de ton oreille attentive et que nous puissions ne pas mépriser ce moment encore où tu entends nos cœurs, tu entends ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons. Et vraiment, je te prie, Seigneur, pour que personne cet après-midi ne reparte en perpétuant un mauvais choix. Seigneur, vraiment, Seigneur, parle à nos cœurs. Par le Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, pour que tu puisses convaincre nos cœurs de l'absolue nécessité de faire la paix avec toi. Seigneur, tu veux notre bien, mais tu nous aimes trop pour nous obliger à te suivre. Seigneur, je te prie pour que nous puissions vraiment comprendre cette réalité et que nous puissions, par amour, décider de te suivre parce que tu n'as pas d'autre désir que de nous faire du bien. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, Amen.